Ok, bienvenue au podcast de mars 2023 de la Forge Ludique, Forge FM. Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve à 4 autour de la table. Donc il y a moi-même, hein, je commence par moi parce que je suis impoli. Donc nos skills, on a également Kirou.
Salut.
Dim.
Bonjour.
Et Sly, heureusement j'ai ma petite fiche pour rien oublier.
C'est vrai qu'on est beaucoup.
Ouais, clairement. Hein. Je vais vous faire un petit sommaire en fait, on va commencer un peu un petit tour de table comme d'habitude, hein, de nos trucs du moment. Je vais faire un petit tour du côté de Grenoble pour faire mon petit bilan personnel, totalement personnel et individuel du French War Game Day où j'étais là la semaine dernière. Ensuite, Inspecteur Kirou va nous parler d'un thème sur la chance. On va voir la dimension qui va être portée couleur apparemment aujourd'hui. Et Sly va nous faire à nouveau le SAV de la Forge du mois. Alors, petit tour de table. Je vais commencer... De mon côté, en fait j'ai beaucoup de travaux à la maison, donc au niveau hobby c'est un peu limite. J'ai quand même réussi à faire une impression 3D en résine, en mode comme ça, je fais pas de réglage, je lance le truc, ça s'imprime tout seul, j'ai trouvé ça assez cool.
Est-ce que ça a marché ?
Et ça marche, et ça a marché. Bon, j'ai découvert des trucs du style, si tu mets pas bien les pièces sur le plateau, ben en fait tu les retrouves fusionnées, et du coup ben, ça marche pas très bien. Hein. Du coup, j'ai fait un Space Marine qui avait une espèce de bras qui sortait de la tête, quoi.
Mais c'est bon ça.
Ça peut être pas mal, je ramènerai la pièce si tu veux, c'est assez cool.
Ça
et j'ai découvert, on en est parlé tout à l'heure, hein, j'ai me suis amusé à demander à monsieur Chat GPT hein, de me faire des listes d'armées pour Age of Sigmar.
Excellent.
Et franchement j'y croyais pas, et ben il les a faites. Alors non seulement il m'a fait des listes d'armées par rapport aux critères que j'avais demandé, en fait j'avais demandé un truc tout simple, je lui dis voilà, je veux une liste d'armées avec une certaine arme, enfin d'une certaine armée, en considérant que c'est une équipe de deux joueurs alliés, et l'autre joueur va jouer ça.
D'accord.
Il me fait la première liste pour mon armée, et il m'explique pourquoi il l'a faite. C'est ça qui était plus fort.
Ouais,
bon, voilà, en fait, ces troupes-là, elles vont servir à faire un écran pour les autres troupes derrière, parce que c'est des troupes qui sont vraiment balèzes, qui doivent arriver au cœur à corps, mais qui sont un peu fragiles.
Bon, tu devrais te taire, tout le monde va le faire.
Franchement, c'est très abusé, quoi. C'est
bah,
franchement
abusé. Je fais la même chose, mais avec le menu pour la famille.
C'est
un peu préparé, mais ouais.
Et du coup, après, je lui dis, ok, et mon copain, il va devoir jouer quoi ? Ah ben, pour bien aller avec ta liste, ben voilà ce que je propose, et avec toujours les explications et tout ça. Donc, j'étais un peu... Alors...
Et
disclaimer.
Qu'est-ce que ça vaut ?
Alors, je sais pas trop, parce qu'en plus, il se base quand même sur des données d'avant 2021, donc on n'a pas les derniers en date, hein, etc. Voilà, donc c'était un petit peu mon coup de... Ouais, tout
mois,
à fait, mais au moins, on avait... voilà, je me suis amusé avec ça, sachant qu'en plus, également, on a... j'ai fait la même chose avec OPR.
Ah, et, ben, et ça fonctionne aussi.
Tranquille. Alors, je vais demander.
Encore plus facile.
Je vais demander. Salut Greg. Fais-moi une liste de 1250 points pour ce soir sur des Battle Brothers. Ouais. Alors, je ne l'ai pas utilisé parce que je n'avais pas ce qu'il fallait. Mais fais-moi une liste de 2250 points pour des Battle Brothers en considérant que le scénario va m'obliger à tenir 6 objectifs. Et il m'a fait ma liste en m'expliquant. Alors, eux, ils vont prendre les objectifs facilement. Mais le problème, c'est qu'il m'avait fait la liste avec des figurines, je sais pas comment ils appellent ça dans OPR, mais des Primaris.
Ah, des Prime Brothers.
Et moi, j'ai répondu, parce que je connaissais pas le nom, je fais « Oh, mais j'ai pas de Primaris, je veux pas en utiliser. » Pas de problème, il a compris la différence,
la consigne,
et il m'a refait une liste avec des premiers nés, quoi. Et là, tu fais « Oh !» Voilà, c'était mon petit coup de la journée. Donc, j'ai pas beaucoup peint, mais je me suis amusé avec des ordinateurs.
Sache que j'ai discuté avec un copain avec qui on fait du jeu de rôle, qui maîtrise Alien. Et il a dit tu peux faire des scénarios, écrire des scénarios, c'est super facile.
C'est quand même assez impressionnant.
Bah, c'est un gain de productivité.
En fait, en quelques minutes ou deux, trois échanges, tu te prends au jeu de dire qu'en fait, tu lui parles comme si c'était un vrai humain. En fait. Et ça fait naturel.
Mais ça, c'est inquiétant.
Et ça, ça fait vraiment bizarre. Bon, alors, en termes de news, hein, on est donc en mars 2023. Récemment, il y a pas mal de scientifiques et Elon Musk qui ont lancé une pétition pour demander en fait une pause sur le développement des intelligences artificielles de 6 mois pour voir un petit peu, pour essayer de réglementer les choses et éviter de faire de la merde. Bien sûr, ça ne sera pas suivi.
C'est juste qu'il faudrait, si j'y ai pensé aujourd'hui, il faudrait penser quand tu fais un texte ou quoi, que déjà la loi t'oblige à dire ce texte ou ce truc a été créé avec ChatGPT déjà.
Ouais, peut-être, ouais.
Déjà. après les gens le font
après,
pas. Mais
après, on va avoir le même truc que sur les IA qui commencent à dessiner, enfin qui font des dessins. Ouais. C'est ouais, ils des comme films. Ils font les IA. Finalement, elles n'ont pas de réflexion propre pure et dure. Elles, ouais, elles utilisent ce qui a été créé par d'autres personnes. Tu dis, il est où le copyright là-dessus ? Mais bon, voilà, c'est Internet. Le but du jeu, c'était de partager tout. Et ça marche bien, même si c'est repris par des robots. Voilà mon petit tour. Kiro ?
Bah moi, rien à voir. Moi, je vais parler peinture pour une fois, pour changer. Moi, mon kiff du moment, c'est quand même la nouvelle Express Color de chez Valero, qui est sortie il y a 2-3 mois maintenant. Et que j'ai pas mal utilisé. Et franchement, c'est vraiment très très bien. Donc c'est un équivalent contraste.
Ouais.
De chez Citadel, mais en mieux en fait. Concrètement, elle se travaille beaucoup plus facilement, elle est plus fluide, elle a moins le défaut que peut avoir la contraste dans ses champs de devenir un peu visqueuse en fait. Là,
de faire des auréoles, c'est ça.
Voilà, en fait. De faire des auréoles, devenir visqueuse quand tu remets des coups de pinceau dessus.
C'est le pigment, il est moins bien fixé.
Voilà, c'est le médium qui est pas pareil, je pense. Ouais. Donc là, elle est un peu plus fluide, mais elle est quand même très couvrante, elle est très bien pigmentée. Et tu peux la retravailler dans le frais en fait. Donc ça c'est vraiment vraiment très cool pour faire des fondus en 2 secondes et demie quoi.
Sur la contraste, j'avais déjà eu le coup. Si tu mettais de la contraste sur une encre, tu vois, je faisais de l'encre à l'aéro en fait, il te bouffait le liant de l'encre. C'est ça. Et du coup en fait, je me retrouvais sur la sous-couche, j'étais super content.
Ouais. Ouais, ça arrive.
Alors
ça
là,
arrive,
j'ai pas encore trop poncé. A priori, ça arrive. Ça m'est pas arrivé encore sur l'Express. Et puis en plus, un truc qui est vraiment sympa aussi, c'est bon, alors ils ont un nuancier de 23 couleurs plus le médium pour l'instant, ce qui était l'équivalent de la contraste, il me semble, de bleu au début.
La première,
et en fait, par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, elles sont miscibles, contrairement à la contraste. C'est-à-dire, si tu prends un magenta et un bleu, tu les mélanges, ça te fait un violet qui a les mêmes propriétés que.
C'est
rigolo.
Que la couleur de base en fait. Donc tu peux t'amuser à.
Donc ça c'est les Valero Express Color.
Ouais, c'est ça. Elles sont vraiment très très.
La contraste.
Très,
donc si Valero vous nous écoutez, n'hésitez pas à la forge. On veut bien des échantillons.
Il y en a dans la
montre. Si Valero La Pantura est buena. Si.
Muy buena. Sachant quoi, la plupart des fabricants de peinture, ils sont en Espagne.
Je pense qu'il doit pas avoir des tonnes d'usines dans le monde de peinture, de figurines, mais enfin même de peinture en général.
De peinture, ouais. D'acrylique. Acrylicos.
C'est donc Hiro ?
C'est tout pour moi.
Dim ? À ton tour.
Bah sinon, dans une demi-heure, on est encore là. Donc,
ouais. Comment ça, on est bavard à la forge ? Moi, de quoi tu parles ?
J'ai pas de trucs figurinistiquement parlant. Je continue à faire du deuxième guerre, je prends beaucoup de plaisir. Je pense qu'au dernier podcast, j'en ai déjà parlé.
Ouais, tu aurais dû en ramener, on aurait pu les montrer un petit
peu. Ouais. Là, j'ai quand même bien continué. Je m'éclate avec la peinture AK, hein. Ça sera un peu le sujet de la chronique. Mais pas que. Je reprends aussi un peu de Death Guard parce que, avec OPR, j'ai le plaisir de jouer avec mes figurines. Donc j'ai repris des vieilles figurines parce que je sais pas si, comme moi, vous. Vous montez des trucs, vous les sous-couchez, vous mettez des couches de peinture, puis après vous les laissez de côté. Enfin, moi je fonctionne comme ça.
Mais tu les sous-couches carrément.
5 à 6 armées.
Moi je les monte pas comme ça, c'est plus simple.
Ah non, mais moi j'ai 5 à 6 projets en cours. J'ai toujours mon Malifaux qui est encore en cours de peinture, du Walking Dead qui est encore en cours de peinture, du Fallout qui est encore en cours de peinture.
Mais moi aussi j'ai des trucs comme
j'ai
ça.
J'ai plein de trucs peints.
Je me limite parce que ça prend plus de place que des trucs peints ou des trucs pas peints en fait.
Le problème des trucs peints que tu as commencé, que tu laisses.
C'est que ça prend plus de la place. Puis ça prend la poussière, et après c'est chiant quand tu retravailles dessus.
Bah là j'en ai ressorti une de la poussière, c'était compliqué. Et donc, le vrai truc, cette semaine, le truc qui m'a bouffé mon temps, c'est un jeu vidéo.
Ah ouais ?
De simulation de chasse.
De simulation de chasse ?
Ouais.
Le truc improbable.
Genre
truc...
Hunting Simulator.
C'est ça, t'as mis, je chasse des sangliers ou des cerfs.
Tout à fait, et ben voilà.
Duncan
2017. C'est une simulation qui s'appelle Hunter Call of the Wild. Et en fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il y a plein de mecs, de streamers gaming qui font des vidéos de ça. Parce que c'est extrêmement difficile, en fait, c'est vraiment un jeu difficile. Tu dois
Alors, vous n'avez pas la tête de Noski, de face, mais c'est assez incroyable.
Il peut passer sur la webcam si tu veux.
Tu marches pendant des heures.
Voilà.
Et okay. Donc, tu dois écouter tout ça. Enfin, selon la proie que tu chasses, ouais. Faut utiliser un certain calibre, et t'as des trucs pour les appâter, etc. Il y en a qui sont plutôt de la nuit, etc. Et t'as des missions qui sont plus ou moins données, et il y a des réserves de chasse. Donc tu peux chasser. Là pour l'instant, moi j'ai pris la version Game Pass, donc je ne paye pas. Hein.
Ouais. Enfin, tu payes avec ton abonnement, quoi.
Je paye avec mon abonnement. Donc tu peux jouer en Europe et aux États-Unis.
Ils font du multi aussi ?
Ils font du multi. Tu peux chasser.
Et est-ce, est-ce que tu peux fabriquer tes appâts ?
Les appâts, tu les fabriques pas, non.
Est-ce que tu peux brasser ta propre bière ?
T'as le bruit en mode.
Est-ce que tu connais la différence entre un bon chasseur ouais. et un mauvais
j'ai
chasseur ?
J'ai découvert que c'est les appos, ça s'appelle les appos. Ouais. Et donc je découvre le truc pour appeler les chevreuils. C'est. Donc maintenant j'ai un petit délire.
Je m'y attendais pas.
J'étais pas prêt non plus.
C'est quoi ton coup de cœur ludique du mois ?
Un jeu de chasse. Un jeu de chasse sur l'ordinateur.
Mais. C'est un délire. Alors, c'est un délire.
Est-ce que tu peux manger la viande après ?
Non.
Est-ce que,
en fait,
est-ce que tu
selon...
peux picoler avec tes copains ?
Est-ce que ça, ouais, tu peux.
Est-ce qu'il y a des
Tu peux picoler.
Est-ce qu'entre deux, il y a des cyclistes ?
Non.
Oh merde !
Désolé, humour noir.
Pardon. Non. Au moins, moi, je me dis, ça me permet. Je suis pas du tout pour la chasse, en vrai.
Tu te détends.
Vraiment contre la chasse.
Tu te détends.
Mais en fait, c'est plus
plein la gueule, c'est ça le cheval.
Est-ce que tu peux chasser les chasseurs ?
L'ambiance, en fait, t'es vraiment.
D'accord.
T'es
vraiment dans la nature.
Il y a un vrai effort au niveau du son.
C'est d'immersion, en fait, plus.
C'est vraiment très immersif. Ouais.
Ça demande presque. Ça donne presque envie de tester, voir ce que ça donne.
Franchement,
ça mériterait presque une chronique si on faisait.
C'est très très
une chronique jeu vidéo.
Mais je me suis dit, il fallait l'adapter en figurine.
Un jeu de chasse en figurine.
Carrément.
Tu chasses des Space Marines.
Des
Tyrannides.
Non, vraiment, idée.
Tu fais, il y a carrément un truc.
Tu veux dire, tu crées un jeu de chasse en figurine.
Tout à fait, ouais.
D'accord.
Alors, pas en figurine ou en plateau. Ou...
Okay. Et tu mets l'ambiance sonore et tout.
J'ai encore perdu.
On est tous perplexes.
Il y a les marcassins qui ont tué mon chasseur. Fais chier.
C'est un peu Ranger au Shadow Deep, ça, en fait.
Ouais, non, mais avec des blagues et tout. Genre, t'as tué le cycliste, dommage, tu m'en casses prison, quoi.
C'est comme GTA avec des étoiles et tout.
Bah écoute, je m'attendais pas à dire. Merci.
Il nous a scotché, quoi. Super jeu. Ceux qui ont le Game Pass, vous pouvez tester.
Donc un peu de peinture. Et c'est quoi le nom du jeu ?
Hunter Call of the Wild.
Ok, Hunter Call of the Wild. Ça marche.
Ok.
Sly ?
Bah écoute, quoi que je dise derrière, de toute façon, ça sera ridicule. Franchement, à ça, cette révélation. Non, bah écoute, en termes de figues, ouais, je continue. J'ai fini mes 10 figues de Marvel Crisis Protocol. Ça y est, je m'étais dit que 10, je les ai finies. Et j'ai fini ma première session du choix des armes là, que j'avais lancé pour OPR. J'ai fini les 5 sorts de bataille. Pardon. Les Blessed Sisters, parce que sinon
ils ont encore changé de nom.
Bah, ils ont changé de nom parce que je pense que Games se rapproche dangereusement.
Battle Sisters,
Battle Sisters, c'était un peu trop transparent. Donc, du coup, c'était du Blessed Sisters. Donc je suis là-dessus et puis je fais comme Dim. En fait, je ressors mes tiroirs dans lesquels j'ai 15 000 trucs commencés. Puis je fais lui, je l'ai pas fini. Et puis je passe 10 minutes à pester parce que je sais plus qu'est-ce que c'est cette putain de couleur que j'ai mis dessus.
Et tu le remets dans le tiroir.
Sur autre chose et je pars sur une autre figue parce que
alors, tant pis. Tu vois, contre ça, moi j'avais pris des petits carnets.
Ouais, moi aussi.
Et je notais.
Et en fait.
Le problème, c'est que j'ai moins 5 carnets.
Ah, le temps que tu retrouves dans le carnet, en fait, ta session de peinture, elle est finie.
Ouais, puis j'ai cherché un autre carnet, donc j'en ai pris un nouveau et tout ça.
Moi, j'ai un tableau blanc en fait sur mon bureau. C'est un bureau de PC. Donc à un moment j'écrivais sur le tableau, je mettais des feuilles que j'aimantais pour parce que je réfléchissais avant quel processus j'allais faire, donc je les mettais pour
écoute, c'est ce que j'ai fait pour pour les sorts de bataille que j'ai commencé. Je vais les noter au moins cette fois-ci, je me ferai pas avoir
mais perds pas le papier,
en fait, ça marche pas.
Moi j'ai fait ça pour les
impressions 3D, je l'ai mis avec, tu sais, dans le tiroir, j'ai tout mis.
Sinon tu fais du deuxième guerre, c'est beaucoup plus simple.
Ouais, c'est clair,
prends pas trop la tête au niveau des couleurs.
Au pire tu recherches ton vert panzer et puis c'est bon.
Voilà, c'est ça.
Donc voilà, donc je complète un peu tout ce que j'ai déjà commencé. En gros.
Vert Panzer 2, Vert Panzer 3, parfois. C'est pas le bon.
Merde, le bon il a granulé, le con.
Bon, ça marche. Mais merci pour ce petit tour de table. Donc moi je vais commencer en fait. C'est une des rares fois en fait où je fais une chronique d'ailleurs. Je vais juste faire un petit compte rendu en fait de mon week-end dernier. Donc le week-end dernier, on était donc avec pas mal des gars de la Forge à Grenoble. Donc Grenoble, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une ville.
On a dû mettre une carte
vraiment loin. Quoi.
Entre des montagnes.
Non, entre des montagnes. On y est allé en train avec quelques heures de retard, etc. Mais c'était sympa.
Si vous voyez Bordeaux, et c'est pas là.
C'est ça. Si vous voyez la mer, c'est pas là non plus. Mais du coup, on est allé en fait pour les French Wargame Day. Donc ceux qui nous écoutent et qui ont allumé YouTube et qui aiment bien la figurine ces 5 dernières années, vous avez sûrement entendu parler. Donc c'est un événement qui a été porté notamment par Ivy alors je suis vraiment pas bon en termes de référence YouTube, donc vous m'excuserez tous les YouTubeurs et les influenceurs, désolé pour vous, mais vous êtes pas, je suis pas client, mais du coup donc par Iggy de Fresh Wargame Studio et de Wargame Spirit, le magasin qui est du coup à Grenoble. Donc en fait, c'était quand même le gros événement de La Mort qui Tue. On y est allé justement pour les faits. Il y a plein de monde, on n'est pas les seuls à aimer les pitous. Si je me trompe pas, on était entre 1000 et 1400 joueurs sous le même toit. Bon, c'est un très grand toit. Hein. C'est un stade Vélodrome. C'est vraiment un gros bazar. Quoi.
C'est à Marseille, ça, par contre.
Alors, c'est un stade qui fait aussi Vélodrome à l'intérieur. C'est pas le nom. C'était le, je sais plus comment il s'appelle, hein, mais c'est un gros.
C'est
stade.
Une arène, quoi.
C'est un gros truc. En fait, il y a l'anneau des vélos autour. Donc c'est assez rigolo. Et on est allé nous notamment, on y est notamment allé nous pour faire de l'AOS narratif. Donc on n'était pas du tout dans le côté compétitif. Hein, on était vraiment dans le côté fun. Et c'était une ambiance que j'ai bien kiffé en fait. Là où on voyait que les gars qui étaient dans le compétitif avaient comme un poil de pression. Hein. Ouais. Et surtout en fait ils étaient très nombreux. En fait ce qui était bien sur cette édition là, c'est qu'ils ont rassemblé tous les jeux Games Workshop dans la salle principale. Alors qu'avant on était un peu dans tous les sens et on s'était retrouvés en narratif dans une salle vraiment pourrie. Donc là on était dans la grosse fosse avec tout le monde. Mais du coup c'est à dire qu'ils ont dû serrer les murs. Donc ceux qui étaient en tournoi compétitif, bah, ils étaient chaise à chaise, tu vois. T'avais plusieurs travées en fait, et les chaises, tu pouvais pas passer en fait entre les deux. Donc nous, ça nous a pas permis de regarder toutes les figurines. On faisait juste le tour des travées principales. Ouais, l'étape du bout et la travée principale. Il y avait des trucs super cool, hein, vraiment, vraiment très jolis. Mais nous, côté narratif, on était très stable. On était vraiment tranquillous. Et on a rencontré des gens vraiment cool, hein, des Normands. J'y reviendrai. Des Normands, des Marseillais, des Lyonnais, des Grenobles, enfin, vraiment un peu de partout, quoi. C'était vraiment sympa. Globalement, l'ambiance était vraiment cool. Les scénarios étaient, pouvaient pas être du compétitif. Hein. Ils n'étaient pas du tout équilibrés et c'était fait pour ça. Et c'était vraiment cool. Alors, avec Greg, donc j'étais avec Greg en binôme avec lui. Lui jouait Ogre et moi je jouais Iron Joe. On s'est fait poutrer les deux premières la première journée, donc les deux premières parties, et les deux suivantes, on a réussi à vaincre. Comment ça s'est passé? La première partie, du coup, si je me souviens bien, c'était des Normands qui venaient du côté de Rouen, je crois, qui jouaient du coup. Alors je vais faire avec des vieilles références que je connais pas les nouveaux noms. Des hommes lézards et des séraphons, merci, et des Daughter of Cain. Et on a découvert. Déjà, on était un peu rouillé. Hein. Ça faisait 6 mois qu'on n'avait pas joué, donc c'était un peu compliqué. On a découvert des trucs.
Enfin, toi, parce que Greg, il joue quand même.
Ben, pas trop. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas joué, apparemment.
Ouais, c'est Zogre, il n'avait pas joué depuis longtemps.
Ouais, c'est ça,
mais
en fait.
Il joue d'autres.
Ouais, mais du coup, voilà, on était un poil rouillé et on s'est fait un peu surprendre par les Mélousailles qui nous ont complètement défoncé la gueule. Genre, vraiment défoncé. Donc voilà. Et le deuxième scénario. Tous les scénarios, en fait, on avait une figurine spéciale, un espèce de loup géant. D'accord. Et le type, c'était qu'il était contrôlable par le joueur actif.
Ouais.
Ok. Donc je suis joueur actif. Enfin, on est joueur actif, c'est nous qui le contrôlons. T'es joueur actif. Donc en fait, il se déplace deux fois par tour. Et c'était une brute épaisse. Genre, c'était vraiment le mec qui défonçait n'importe qui comme ça. Quoi. Il y avait 8 attaques de base sur du 3+3+ avec 2 dégâts et reine -2, plus 3 attaques en 3+3+ toujours, reine -4 et 4 dégâts. Donc, il défonçait tout ce que tu voulais, hein, sans problème. Et c'était une incarnation, donc il fallait le tuer deux fois pour qu'il soit vraiment mort. Grosso modo. Et si tu es un héros, hop, il reprenait un petit up et il tapait dans mon micro. Il prenait un petit up et puis il défonçait encore plus. Donc voilà, c'était le truc qui déséquilibrait tout. La deuxième partie, on s'est fait défoncer. C'était un scénario de défense, en fait. On était au milieu. Il y avait une armée, il y avait 1000 points qui commençaient au milieu dans un cercle de 12 pas de diamètre. D'accord, avec le gros loup au milieu.
De diamètre.
Alors autant dire que mes orucs ils sont bien serrés et t'avais 2000 points tout autour.
Okay.
On tombe contre des Squig et des Sigmar.
Gloomspite.
Des Gloomspite et des Sigmar entièrement tir. Mm. Ok. Et mon copain, donc les
très deux, fleuve d'ailleurs cette alliance.
Total.
Non, ça l'est pas trop.
Pourquoi pas
un petit peu de destruction au début. Ouais, c'est un peu bizarre. et mon copain à moi, il est arrivé seulement au deuxième tour.
Ouais.
Donc en fait, j'ai 1000 points tout seul et 2000 points sur ma gueule.
Ouais.
Sur deux armées plus ou moins équilibrées, ça serait passé en fait. J'aurais eu une partie d'une armée, une partie de l'autre. Sauf que là, en fait, j'en ai une full corps à corps et une full tir.
Ouais,
autant dire que j'ai tout pris. J'ai pris 2000 points dans ma gueule.
T'as défoncé au tir et l'autre, il t'a chargé.
C'est ça. Avec les squids, il m'a défoncé. Il me restait quasiment plus rien dès le premier tour. Et puis le but du jeu, c'était de faire des points en survivant. Donc c'était un peu compliqué. Donc voilà, celle-là, on s'est fait ratiboiser. Mais, Alors, je les salue, hein, s'ils nous écoutent. Hein, ils avaient réussi à rentrer. On n'avait pas le droit aux bouteilles de verre dans le truc. Mais eux, ils avaient réussi à rentrer une petite bouteille de Calva.
Chut.
Hein.
Elle était en plastique.
En plastique, sûrement. Une fiole bien ronde en plastique. Et du coup, on l'a goûté. Ça sentait fort la pomme. Ça sentait fort la pomme.
L'alcool est dangereux pour la santé.
Ah, mais j'étais j'ai jamais goût. Je bois jamais ce truc-là. Je bois jamais en général. Donc, on a juste eu un fond, genre un centimètre dans les trucs, dans les gobelets en plastique. Et bah, tu sais quoi, on a vraiment eu chaud. On a fini en t-shirt.
Ah, ça va, vous êtes resté habillé
quand même. Toi, t'as pas tapé le truc le plus calme, quoi.
Ouais, voilà, c'est ça. Donc, c'était une petite. Donc, je les remercie. Hein, c'était vraiment cool. Et le lendemain, du coup, pareil, on a eu deux parties sympas. Première, contre des Marseillais, on est vraiment désolé, hein, parce que sur la partie, j'ai perdu un hard boy, c'est tout. Et ah oui, ils n'avaient plus rien.
Donc, tu as perdu 10 points sur
10. C'est ça. Ils n'ont rien perdu du tout. Enfin, il leur restait plus rien. Donc, désolé pour vous, ils venaient de Marseille. Très, très sympa, franchement très sympathique. Il a même réussi, grâce à une charge à 12 pouces, à gagner un jeu descente. Donc, s'il se reconnaît, je lui fais coucou ici. Et la dernière partie, c'était une partie à 4 contre 4. Donc autant dire la grosse partie de malade. Et c'était sympa, c'était vraiment cool. On l'a remporté et on a fait des coups vraiment sympathiques. Alors tout ça pour dire que c'était vraiment un événement qui était cool. Vraiment agréable de voir d'autres joueurs, d'autres façons de jouer. Des gars qui jouent que dans leur garage en fait. On a profité avec Greg, vous connaissez Greg, hein, il demande toujours un peu comment ça se passe chez les autres. C'était plutôt... vous êtes en assaut, comment ça se passe en assaut? Donc on sait par exemple que du côté de Marseille, dans le sud, c'est compliqué parce qu'en fait toutes les salles sont payantes et ça coûte un bras. Oui. Donc faire des tournois, faire des rencontres, c'est super compliqué. Social. Donc en fait ils jouent chez eux et c'est tout quoi. Ils n'ont pas forcément beaucoup
de... beaucoup de monde en France. Bah, quand tu vois que l'application qu'a lancée Evy, ça fait un carton. Hein. Moi, je suis beaucoup sur les réseaux sociaux, sur les groupes de débutants, machin, peinture, etc. Enfin, les groupes Conquest, en fait, Imperium. Ouais. Donc, tu as beaucoup de débutants. Les mecs, ils sont tous, ouais, l'appli, c'est génial, même pour Bolt Action, même pour tout, en fait. Parce que tu lances une appli qui géolocalise et du coup, les gens...
ils se rendent compte que leurs voisins ils jouent aussi. Bah, alors qu'ils ne le savaient pas parce qu'ils ont peur de leurs voisins. Ils ont peur de leurs voisins et ils en fait, c'est pas
alors que leur meilleur pote depuis 10 ans. C'est le seul moyen de jouer, c'est en assaut.
Ouais, bah,
moi j'ai du mal à concevoir ça, en fait. Autrement de jouer.
Moi j'ai un peu de mal à me dire je vais mettre une table à la maison en fait. Et c'est vrai que... Mais du coup voilà, on a vraiment vu plein de trucs différents. Bon, l'ambiance c'est quand même assez ouf d'être dans une pièce avec plein de joueurs partout.
Moi c'était un peu ma question, vous n'avez pas un peu de frustration de pas avoir pu voir tout le monde, de peut-être pas avoir
comme je te disais en fait tout ce qui
côté vraiment plein
de tout ce que je te disais tous les côtés tournoi c'était super serré donc en fait on voyait pas grand chose en fait
et c'était un peu moins
et puis ils étaient rincés en fait en fin de journée fin de journée ils étaient rincés
ils avaient plus de parties eux, non ils devaient avoir 3 et 2
non en fait c'est 2 et 2 2 tout est chronométré et tout ça
les mecs ils sont tendus
ouais mais attends parce que ça veut dire que ils avaient que 4 parties c'était quoi beaucoup plus
1000
Ils étaient 1000, après c'était sur plusieurs jeux, mais mettons sur AOS c'était 400, allez.
Non, je crois que c'était 800 ou 900 sur 40 000, un truc comme ça.
Ouais, mais enfin, c'était du 2 contre 2 aussi ou c'était du 1v1?
C'est du 2 contre 2 aussi.
Ouais. Mais ça veut dire que comment tu sors un classement en fait? Pourquoi tu te mets la pression, tu peux pas sortir un classement sur 4 parties sur 800 joueurs, sur 400 équipes?
Je veux pas plus intéressé que ça.
Okay. Moi j'allais poser la question par rapport à notre événement, qui est beaucoup plus modeste. Hein.
Non, mais ça n'a rien à voir.
Mais
c'est pas du tout pareil en fait.
Il n'y a pas les mêmes objectifs.
Ah bah c'est quand t'es visiteur là, quand t'es visiteur là-bas, bah tu fais rien. Enfin, tu vois tu vois quelques tables, tu vois 10% des tables.
C'est pas fait pour promouvoir le loisir.
C'est pas là c'est vraiment pour rencontrer des joueurs.
C'est fait pour jouer en fait. Mais toi les mecs qui sont inscrits viennent pour jouer.
C'est
un méga tournoi.
Limite ça serait un tournoi fermé, ce serait pareil en fait.
C'est un méga tournoi.
C'est un méga tournoi ou un méga week-end de jeu.
Tu vois, moi
multijeu. Ouais, il y avait du Légion. SDA, il y avait du Conquest,
Légion,
il y avait du Malifaux, non?
Non,
pas de Malifaux. L'année dernière, ils avaient tenté et en fait, ils ont été
plus
Covid et machin, ça c'est finalement.
Il y a eu un concours de peinture, alors, à très beau niveau. Personnellement, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas beaucoup de pièces présentées. Il n'y avait pas grand chose.
Peut-être pas assez communiqué dessus.
Peut-être,
c'est pas fait pour s'ils parlent beaucoup de jeux.
Bah non parce que tu avais quand même enfin il y a quand même des trucs de ouf hein, mais il y a pas beaucoup
après,
de pièces.
Je pense que c'est à l'image de
en termes des points négatifs alors moi je suis pas fanat de bière donc je m'en fous mais apparemment la bière c'était pas fait pour les gens du nord hein, c'était pas bon.
Il y avait de la jupie,
de la bière dedans.
C'était Heineken.
Ouais, c'était de la voilà, bref. Moi j'ai trouvé que les repas étaient
l'alcool est dangereux pour la santé.
Ouf, était pas ouf.
Ouais, mais ça reste en fait, ce
mais, que tu décides... mais vous n'avez pas été malade cette année.
On n'est pas été malade cette année, mais donc, ça reste des repas. Après, je me dis que la logistique pour préparer oui, 1500 repas, c'est ouf, quoi. C'est franchement, fait, là, ouais, ça, après, ça passait c'est, très c'est bien. Gros, on n'avait pas eu, on n'a pas eu 3 heures d'attente pour. Mais voilà, je me dis que bah après, pour le tarif, ça restait un peu.
Ça reste cohérent avec le type d'événement, c'est-à-dire que c'est un méga tournoi.
Ouais, c'est ça.
Quand tu fais même des petits tournois très modestes, on est sur du sandwich dégueulasse.
C'est ça. C'était un peu plus élevé. On a eu une tartiflette, on a eu des dios, etc. Mais voilà.
Moi, ça me fait penser aux compétitions de judo quand j'étais gamin. Tu faisais des interclubs, tu avais 3 sandwichs à la mini-molette. Et puis voilà.
Ils avaient prévu des animations pour le samedi soir, mais en fait, tout le monde était parti.
Tout le monde est mort.
Ils n'ont pas réussi à. L'année d'avant, en fait, c'était en juin, et du coup, les animations étaient à l'extérieur, et ça avait fait. Il y avait des jeux gonflables et tout, donc c'était rigolo. Là, ça n'a pas pris, en fait. Tout le monde est parti. Nous, on a fait un jeu de plateau. Ils avaient ouvert des jeux de plateau et tout ça, on était 4 à jouer, quoi. Donc voilà.
Ouais.
Dans le grand truc.
Dans le grand truc.
C'était ouvert aux extérieurs, ça, ou c'était uniquement.
Non, c'était que l'intérieur. Place, c'était que l'intérieur.
Et donc vous avez rencontré le patron de la chaîne YouTube ou pas?
Bah oui, il était là. Bon, il est... En fait, vous savez, c'est un humain normal. En fait.
Oui, non, mais
c'est vrai.
En fait,
c'est comme nous. Je pense que bientôt, il y a des gens qui vont nous croiser dans la rue.
Alors, putain, par contre, c'est les mecs, en termes de rencontre de ouf, on a vu Croc.
Croc, monsieur.
Ah, ça vous parle pas. Okay. Pour les plus vieux d'entre vous, hein, Croc, c'est le monsieur derrière plein de jeux de rôle, notamment. Moi, je connais sur INSMV, par exemple. Bon, bref, c'est un grand nom du jeu de rôle et du jeu de société dans les années 80-90. Mmh. Et du coup, là, il était en mode incognito, il jouait avec son fils. Puis, c'est bien, la figurine, personne ne me connaît, donc on ne me fait pas chier. Donc nous, on lui a fait
chier. Fait le fanboy.
On l'a amené devant le photomaton. Il y avait un photomaton à dispo, puis on a fait un photomaton avec. Et puis voilà, on était content. Voilà, c'est pour mon petit retour sur Fresh War Games Day. Donc c'était cool. Nous, on était 6 de la Forge à y aller. Et on était la moins bonne équipe des 3. Hein. Mais on s'est bien marré.
Les moins préparés aussi, peut-être, non?
Ouais, les moins préparés.
Est-ce carrément. Que.
Il n'y avait pas de reptiliens déjà
dans notre équipe. On était les plus sexy, par contre.
Petite question. Je me suis posé la question, est-ce que vous avez fait tourner la vidéo de la campagne OPR?
Alors,
que j'ai fait fluff.
Pas du tout.
Il y a eu je sais pas combien de vues sur ce que j'ai
coupé. 500 vues.
J'ai pas compris. Pas du passé. Tout parce que en fait, moi on n'entendait rien avec le bourrin.
Ouais.
Mais ouais, t'as eu plein de vues pour ça. On en a parlé carrément. On a parlé du Hammer
Time. Quelqu'un l'a relayé. Peut-être.
Qui était connu, hein, le Hammer Time était connu. Donc les gens qui le connaissaient. Connu, ouais. Donc ah ouais, si on connaît, on a entendu parler. Ah bah c'est nous. Donc voilà, c'était assez cool. Mais non, on n'a pas fait tourner. Mais ouais, t'as eu plein de vues.
Je me suis dit, elle a fait 500. Là, on est à.
Presque
600.
Le mignon.
J'ai jamais atteint.
Sur la Forge, j'ai regardé les autres vidéos. Je pense que la plus grosse, c'était une vidéo retour à Meurthe, mais était autour de 300, je crois. Ouais, mais ouais. Sur 3 ans, quoi.
Ouais, non, c'est ouf.
Alors,
c'est
ouf. Si, je sais, parce que je me suis dit, dans le titre, je vais mettre guerre. J'ai mis dans le titre de la vidéo.
Tu crois
guerres,
que ça y joue beaucoup?
Et je pense que l'algo, les mecs qui.
La guerre!
Qui regardent des vidéos sur la guerre, la stratégie militaire.
Ils tombent dessus par hasard.
Moi j'ai une autre théorie. Comme c'est la guerre de Janus, il n'y en a pas un qui a tapé.
Ils ont oublié
les
mecs
qui cherchent des trucs bizarres.
En écoutant des vidéos fluff sur le Primarch Lionel Johnson, Janus existe dans le fluff.
Lionel.
Horus.
Lionel Johnson.
Lionel Johnson.
Lionel Johnson.
Lionel Johnson.
Johnson.
Lionel Johnson.
Bon, ok. Bon, merci à tous. J'ai pris un peu de temps pour ma chronique, désolé. C'est la première, j'ai du mal à me timer. Hein. En plus, j'étais sans filet. On va passer donc à la deuxième chronique avec celui que vous attendez tous. L'inspecteur Kiro.
Salut à toutes et à tous.
j'ai coupé ça, désolé.
On se retrouve ce soir pour une nouvelle enquête de l'inspecteur Kiro. J'espère que vous êtes remis de vos émissions de la dernière fois et que vous n'avez pas croisé trop de reptiliens autour des tables de jeu. Sinon, dommage pour vous. Alors, il faut tout d'abord que vous sachiez que j'ai depuis plusieurs mois reçu de nombreux courriers de fans. En effet, depuis ma toute première enquête portant sur le lien entre la qualité de peinture et la chance au dé, souvenir, de nombreux auditeurs m'ont écrit en m'implorant de trouver des alternatives à la peinture pour attirer la chance sur leur dé. Après mûre réflexion, j'ai donc décidé de jeter un coup d'œil sur un autre grand questionnement du monde du jeu. Existe-t-il un moyen infaillible pour attraper la chance? Sachez que le 8 novembre 2012, un Français gagnait 170 millions d'euros à l'Euro Million. Simple chagat ultime, Ou avait-il réussi à mettre toutes les chances de son côté? De nombreux joueurs courent perpétuellement après la chance, sans jamais vraiment savoir comment l'attraper ou comment la garder une fois celle-ci acquise. Je me suis donc penché sur le sujet afin d'apporter des réponses à ceux qui en demandent. Mes premières recherches m'ont amené à me pencher sur une pratique plus ou moins connue de notre milieu, l'utilisation de gris-gris, aussi appelé porte-bonheur. En effet, qui ne connaît pas un joueur qui a un objet, une paire de chaussettes fétiches, ou même un caleçon qu'il ne lave plus suite à une victoire écrasante? Une étude sociologique néerlandaise menée en 2017 par le professeur Van Chatman montre que 94% des gamers ont déjà, dans leur carrière, utilisé ou usé un objet afin d'attirer la chatte. Celui-ci pourra prendre plusieurs formes: peluche, statue, porte-clés, figurine dédiée, cousine germaine. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir quel est réellement le pouvoir de ces objets. Comment ceux-ci l'ont-ils acquis et pendant combien de temps ont-ils fonctionné? Le sujet est obscur et il est difficile de trouver de la documentation plus approfondie. Je me suis donc tourné vers des témoignages. Ainsi, Edouard nous raconte. Je joue souvent avec le dentier de ma grand-mère à côté de moi. Vous savez, elle a gagné plusieurs fois au loto avant sa mort et c'est la seule chose que j'ai pu récupérer d'elle. Depuis, mes dés sont vraiment bons, alors j'ai du mal à m'en séparer. J'ai l'impression qu'elle m'accompagne un peu comme ça. Bon, ce qui est le plus gênant, c'est l'odeur au final. Une preuve alors que certains objets possèdent la chance et la diffusent. Claire, elle nous dit « J'avais des dés en bois à une époque. Ils étaient trop bien, ils venaient d'un vieux Monopoly. Bref, ils me donnaient de la chance comme jamais quand je les utilisais. Puis un jour, ils m'ont, excusez-moi l'expression, chié à la gueule. » Et n'ont plus arrêté de déchatter. J'ai jamais su pourquoi, j'ai fini par les brûler. Dans la continuité des objets, certaines pratiques ancestrales font état de prières, d'incantations, qui par leur simple prononciation apportent la chance à celui qui l'énonce. Alors, des textes, des poèmes, des formules ont-ils un pouvoir mystique, voire magique? Un certain Mout, pardon, M, nous explique. Je suis un très grand joueur de Blood Bowl, et lorsque j'ai un tournoi à jouer, je récite toujours la prière à Neufel avant de commencer le week-end. Neufel, c'est le dieu du vrai sport. Il nous apporte la sainte Chagat. C'est notre dieu à tous, il nous donne des flashs et des 10-12 la mort. Sans lui, je ne serais rien. Neufel est grand, Neufel est fort, Neufel est l'unique. Eh oui, certains joueurs fanatiques trouvent parfois le réconfort là où ils le peuvent, quelquefois auprès de dieux plus ou moins cléments avec leurs dés. Une autre pratique, plus ou moins connue pour attirer la chance, est celle du micro-ondes. En effet, cet objet initialement prévu pour réchauffer des aliments, et non le hamster dans votre petit voisin Edmond, fait l'objet de réels engouements ludiques. Elliot nous explique. J'avais vraiment pas beaucoup de réussite au dé. Et puis un jour, j'ai trouvé un tuto sur le net pour en récupérer un max. Il suffisait de passer ces D6 au micro-ondes. J'avais rien à perdre, alors j'ai tenté l'expérience. Et c'est incroyable! Depuis, j'ai vraiment une chance inouïe. Je gagne la plupart de mes parties. La chance est vraiment avec moi. Bon, par contre, prenez bien des dés en plastique. La première fois que j'ai tenté avec mes dés en métal, je vous dis pas le résultat. Eh oui, le micro-ondes. Cette machine a attiré la chatte. Quelle merveilleuse invention! En continuant mes investigations, j'ai découvert des pratiques un peu plus obscures. Et je ne parle pas de rites à base de sacrifices de chèvres pour s'attirer la chance au jeu. Non, non, je parle de ces hommes, ces femmes, qui par appât du gain, mettent en péril leur couple. Oui, l'expression bien connue, avoir une chance de cocu, a fait des adeptes. Ceux-ci incitent alors leur partenaire à la tromperie pendant leur partie de wargame. Jules se confie à nous. En 2018, à bout psychologiquement, à force de perdre toutes mes parties, j'ai décidé de tenter le tout pour le tout. Un vendredi soir, j'ai payé un escorte à ma femme pendant que je me rendais au club. Et là, miracle, ce soir-là, j'ai gagné ma partie haut la main. J'étais sûr que ce n'était pas une coïncidence. Alors j'ai recommencé la semaine d'après. Et bingo, victoire! Sauf que c'était un sacré budget. Voulant me rendre service, ma femme a proposé à Émile, notre voisin, s'il voulait remplacer l'escorte, pour faire des économies. Et voilà que j'enchaînais les victoires, c'était au top! Bon, depuis ma femme est partie avec Émile et j'ai de nouveau plus de chance au dé. Mais bon, franchement, ça marche du feu de Dieu. Alors, si Jules dit que ça fonctionne, qui serait partant pour tester sa méthode? Enfin, pour terminer mon enquête, je me suis renseigné sur ce mirage récurrent chez les joueurs et joueuses. Le mojo. Cette chose abstraite, difficilement quantifiable, mais qu'on peut perdre comme on l'a attrapé. Ce concept qui, dans toutes les têtes, fait son petit bout de chemin. Qu'est-il? D'où vient-il? Comment le décrire? Louise nous explique. La dernière fois, j'ai commandé un mojo sans alcool. Bah, c'était franchement dégueulasse. Il y avait du sirop au goût rhum. Non, mais t'y crois, toi? Qu'est-ce qu'on n'a pas inventé? Semblerait que le témoignage de Louise ne soit pas celui initialement prévu. Veuillez m'excuser pour la gêne occasionnée. Celui-ci ne va pas vraiment nous éclairer sur le mojo auquel on pensait, malheureusement. Alors, difficile d'être exhaustif lorsqu'on parle de la chance. Dur de trouver un moyen infaillible et durable pour avoir des bons dés. Néanmoins, quelques grandes pistes se dégagent pour essayer d'améliorer sa luck. Mais finalement, n'est-ce pas le propre de nos jeux de s'en remettre aux dés, à leurs décisions, et de les accepter quoi qu'il arrive? N'est-ce pas le plus bel accomplissement d'accepter la victoire ou défaite toujours dans la bonne humeur, sans chouiner? Et vous, un gris-gris, une prière, un micro-ondes, autre chose? Ou juste le plaisir autour d'un bon jeu de dés?
Merci, inspecteur.
Mais de rien.
Alors, messieurs, côté chance, vous êtes comment, vous?
Moi je suis poissard bien comme il faut. Et juste je sors tous mes 6 à un moment juste pour écœurer l'adversaire sur un truc, genre sur le sauvegarde de Dreadnought la dernière fois. J'en ai fait genre 6, c'était du 6+, j'en ai passé genre 6 ou 7 de suite, mais tout le reste de la partie était juste n'importe ouais. quoi.
Vous vous souvenez tout à l'heure, je vous ai parlé d'un loup qui a plein de d'attaques et qui défonce tout. Mm-hmm. Donc sur les 8 attaques, j'ai quand même réussi à faire 5-1. Le reste c'était du 2 et du 3.
Bah, là, vous, pas mort en fait, sur les week-ends comme ça, ça vaut peut-être le coup de tenter la technique de Jules pour le coup.
Ouais, je pense bien. Et je vais commander un bus ou un truc comme ça. Mais... non, voilà, du coup, voilà, en termes de poids saudé, ouais, je maîtrise pas mal en général.
Moi, personnellement, je ferai pas trop de commentaires sur mon chat. Non, c'est mais j'ai remarqué un truc. C'est soit tout, soit ça rien. C'est qui tout double. Ouais. J'ai pas d'entre-deux. Hein. J'ai pas de soirée moyenne. Quoi.
En fait, tu joues avec des
binaires.
T'es pile ou face. Quoi. C'est ça, j'ai réussi. J'ai loupé. J'ai réussi. C'est vrai qu'on a déjà vu ça.
J'ai remarqué que je le sens. Tu vois. Ce qu'on m'a souvent dit, c'est que t'as beaucoup de chance parce que t'essayes beaucoup. Pour avoir beaucoup de chance, faut beaucoup essayer.
Ouais, alors j'ai beaucoup essayé. Hein.
Des fois, t'essayes longtemps.
J'ai essayé les dés, j'ai essayé les cartes, parce que Manifo, c'est un peu pareil, hein, tu vois.
Ah oui.
Ouais. Ah bah non.
Là, je peux tricher, là, ma main triche, c'est de la merde.
C'est ça. Regarde, j'ai une suite de 2 à 5.
Ouais, et le joker noir, c'est toujours bon, il faut pas.
Ouais, là, je te touche, le truc de tir de fou.
J'avoue qu'il y a quand même un peu moins de.
C'est un peu moins chatard.
C'est un peu moins chatard.
Justement, ça mitige un peu.
Ça marche. Merci beaucoup, Kirou.
Mais de rien.
Et toi, ton côté, Kirou, t'as pas dit, toi t'es plutôt...
Moi je suis plutôt team micro-ondes, moi.
T'es plutôt micro-ondes. Non, je plaisante. Ça marche vraiment, ce truc-là?
Bah écoute, apparemment, ça marche.
Il faudra qu'on teste.
Faudra vraiment tester.
Oui. Oui. Ils sont... En fait, ils vont mettre le 6 vers le haut, comme ça, ils s'aplatissent.
Bah, c'est ça.
Ça devient
des pièces.
Tu fais soit 1, soit 6.
C'est pas bête.
Non, moi, ça dépend des jours, en fait. C'est un peu comme Dim.
T'as pas une constante en fait.
Non, y a pas une constante.
Chatard quand même.
Il y a une période où j'étais vraiment très très chatard. Je sais pas si vous vous rappelez. À l'époque des Marilous des Flandres, on jouait à Dystopian Wars et il y avait la Kiroute en fait. À base de des dés, c'était des dés explosifs à Dystopian. Dès que tu faisais un 6, ça faisait une réussite et en plus tu pouvais rejeter un dé supplémentaire. Je sais plus, j'avais enchaîné sur un tir complètement con contre un monstre prussien et j'avais genre 3 dés, je crois, ou un truc comme ça et j'ai enchaîné. Je crois que j'ai fait 15 dégâts, un truc comme ça à la fin. Enfin, en fait, je finissais avec un seul dé, je faisais 6, comme ça, et mon adversaire est devenu fou à la fin, en fait.
6,
et ça s'est appelé une Kiroute pendant un long moment, mais bon, depuis, ça a disparu, parce que ça n'arrive moins.
Je me souviens qu'Infinity, c'était pas le cas.
Infinity, ouais, ça galère pas. Mais Infinity, c'est
plus de chiffres.
C'est plus punitif, surtout. C'est-à-dire que si t'es mauvais, ça se voit très vite, en fait.
C'est ça, tu crois?
Ah bah, c'est sûr, c'est ça.
La chatte, c'est pas les extrêmes.
Ouais, c'est ça, en fait.
C'est ça qui est gênant. C'est pour ça que j'aime moyen, parce que c'est pas les extrêmes, c'est pas le 1 ou le 6 ou le 20.
Il faut être dans les
calculer.
Milieux. Ouais, c'est vrai, ça marche. Bah, merci beaucoup, inspecteur Kirou. On va passer du coup à la dimension. Dim, où est-ce que tu nous amènes ce mois-ci?
Alors,
dans la dimension.
Si vous n'avez pas compris, Tiens, tu peux montrer ce magnifique catalogue.
Vous allez voir ma grosse bouille en gros plan, peut-être.
Alors, si vous n'avez pas compris, aujourd'hui, j'utilise que de la peinture AK. Alors, pourquoi j'ai fait cette chronique ? Pour la simple et bonne raison que sur les réseaux sociaux, j'ai quelqu'un qui... On parlait des peintures, quelle peinture vous utilisez, etc. Moi, j'ai fait un petit commentaire en disant j'ai balancé toute ma peinture Games au profit de...
Citadel.
Oui, Citadel, pardon. Bon, j'ai pas tout balancé, hein, j'ai gardé des trucs quand même. Hein, faut pas tout jeter.
Fais des beaux petits présentoirs.
Donc, du coup, j'ai dit, c'est très bien, je vais faire une... chronique sur le podcast de mon asso pour parler de peinture et notamment des peintures AK. Alors, première chose, comment bien choisir sa peinture? Il faut savoir pour quel type de figurine vous allez utiliser. Si vous ne faites pas de figurine historique, AK, la gamme fantasy est pas mal, mais elle est un peu plus limitée que une gamme comme Vallejo.
Vallejo,
notre très cher ami.
Aïe, aïe, aïe.
Vallejo. Alors, AK Interactive, c'est une société espagnole, comme si. Vallejo, comme Scale 75 ou Green Stuff World, hein, ils viennent tous d'Espagne.
C'est les meilleurs, de toute façon. Alors, comme dans le jeu.
Ils existent depuis très longtemps, là, c'est leur troisième génération de peinture. Ils ont eu un gros creux de la vague, pour la simple et bonne raison qu'ils ont eu un gros problème de communication. Mmh. Ils ont sorti un jour, je ne sais plus si c'était une encyclopédie de figurines peintes.
C'était juste au moment du Covid, ça, non? C'était au moment des confinements et ça. Tout, il y a eu un gros bad buzz.
En fait, ils ont fait un bad buzz en montrant un diorama d'Auschwitz, quoi. Avec la grue qui soulève les corps, enfin un truc, en disant « l'horreur dans l'histoire ». Rendez le truc super vrai avec les peintures AK.
Ah putain, j'en ai pas entendu
parler de
tout ça. Ils ont étouffé un peu le truc.
Ça fait un sacré bad buzz à l'époque.
Ils avaient fait un putain de bad buzz.
Pour avoir vécu en Espagne, je peux dire que ce genre de truc, en Espagne, ça les choque pas, quoi.
Alors voilà, pourquoi...
Déjà, la marque s'appelle AK avec une Kalachnikov, en fait.
Ouais, puis alors. Plus pourquoi, maintenant, je crois.
Ils l'ont enlevé aussi. Enfin, ils l'ont enlevé, oui.
Pourquoi ces pays comme ça ne vivent pas le nazisme, etc., comme nous, ben, ils n'ont pas eu la guerre chez eux et ils n'ont pas eu de camp de concentration. Tu vas en Italie, c'est à peu près pareil. Hein. Mm. Alors, je ne vais pas faire des généralités, mais en Italie, le ressenti vis-à-vis de la Deuxième Guerre mondiale, il n'est pas identique à l'Allemagne ou à la France, par exemple, qui sont quand même les deux pays vraiment impactés, ou la Hollande,
ou la
Pologne, où il y a eu des camps de concentration. Et voilà. Donc, alors, ils ont... Le gros avantage de la peinture AK, déjà, c'est le conditionnement hein, des peaux. Tu peux montrer, voilà, les peaux sont conditionnées comme ça, comme les peaux Valero.
Peau pipette.
Ça, c'est un des arguments qui, déjà, par rapport à la Citadelle, c'est pour ça aussi que sur les réseaux, je disais au gars qui m'a interpellé, il y a un gars qui m'a dit, mais non, mais c'est vachement bien, Citadelle, c'est pas si mal que ça. Elles sont vachement bien, les peintures. Et moi, j'ai dit...
Les peintures, le conditionnement, non.
Il y a quasiment rien à garder. Voilà. Il y a certains pigments qui sont pas mal, mais le conditionnement, il est nul. Elles vieillissent très très mal. Fais gaffe, hein. C'est une vieille.
Attention, il dégoupille.
Alors, tu peux montrer la texture hein, qui est hyper épaisse. Elle est assez vieille, hein, celle-ci. C'est un Wild Rider Red.
Je vais pas vous le montrer, parce qu'on va foutre partout sur mon PC.
C'est très très épais. Voilà. Alors, c'est le problème des peintures Games. Elles sont pas du tout fluides comparé à l'AK qui est très fluide.
Et t'as raison, hein. Moi j'ai toujours trouvé ça super chiant, ces peaux clapées.
Voilà, on a des dépôts.
T'es obligé d'avoir en plus un tiens-peau parce que ça trouve partout.
Et en plus, le prix au millilitre, il est vraiment, vraiment trop élevé par rapport.
Mon cher Dimou, combien ça coûte un petit pot comme ça?
Environ 2 euros et quelques, il faut regarder sur le site.
Entre 2,50 et 2,80 à peu près.
Et mon petit Kirou, ça coûte combien un pot comme ça?
3,60. Sauf qu'il y en a un qui fait 12 et l'autre qui fait 18 millilitres.
Voilà, donc voilà. Vous avez la réponse déjà.
Voilà.
Et comparé à. Tiens, tu as la scale. Donc la scale, c'est 17 millilitres.
Ouais, 17.
Et ça coûte?
C'est autour de. 3,50 euros, ça dépend. Ouais.
La scale.
Mais ce n'est pas les mêmes pots.
Non, ce n'est pas les mêmes pots.
Alors la scale, ils ont changé maintenant. C'est l'ancien conditionnement.
Oh, d'accord.
Ils ont changé le bouchon.
J'ai de la Vallejo. Tu peux montrer le bouchon de AK. C'est un détail à la con. C'est un détail à la con. Montre-le, voilà.
Il crée de l'air.
En fait, il y a un creux sur la tête de la, de, du bouchon pour mettre ta couleur.
Ah ouais, c'est fait pour ça.
C'est fait pour ça. Tu mets une goutte dedans et du coup, alors, tu as.
Il y a un truc aussi cool, c'est ce petit cran là, qui permet que quand ton truc est bloqué, que tu es obligé de prendre une pince pour l'ouvrir, c'est tellement c'est sec.
Ça, ça n'arrive jamais.
Ça vous est jamais arrivé
avec, non. Avec la
ça vous est jamais arrivé
non, ça m'est jamais arrivé.
Jamais arrivé que c'est pas arrivé.
Ça m'est déjà arrivé.
Moi, ça m'est déjà arrivé.
En fait, normalement, si tu le stockes droit, ça peut jamais t'arriver en fait.
Ouais.
Après, si tu fous tout dans un pot, en mode one again, dans une boîte, oui.
J'ai déjà eu le coup en fait sur des pots où. En fait, la peinture a écoulé fort ici, tu sais, voire même était fendu le truc, donc la plomb, ça a écoulé à mort. Il y en avait là, bon, bien sûr, hein, j'allais refermer comme ça pendant un an ou deux, et puis quand je joue, c'est. Et puis du coup, ça glisse, c'est dur.
Le gros défaut chez Scale, par exemple, que j'ai retrouvé, c'est que je ne sais pas si c'est encore le cas, mais les pots sont bouchés. Alors, c'est une fausse bonne idée. Parce qu'en fait, c'est. En gros, c'est bouché de base par le plastique pour pas que ça sèche. En fait, tu dois les percer, c'est pas évident. Alors,
pour la petite histoire,
n'appuyez pas comme des bourrins sur vos pots Scale Color 9. Vous en mettez partout sur votre palette.
C'est exactement ce que j'ai fait.
Ouais, t'as fait.
Je vais.
Et tu t'es jamais dit. Mais c'est pas normal que ça sorte pas.
Ouais. Faut pas faire.
Après, tu t'es pas dit, en fait, c'est pas de la peinture solide et faut pas que j'appuie comme un bœuf. Normalement, ça passe.
Après, je me suis dit ça.
Après qu'il y avait partout.
Oui, non, mais alors, ça arrive régulièrement.
La garantie de la troisième.
C'était seul bois.
La troisième génération acrylique de chez AK. Alors, c'est pas. Eux, ce qu'ils garantissent dans leur coupure de pub, c'est que c'est tout de suite ready pour appliquer au pinceau. Hein. Ça tient bien.
C'est un bon.
Bah, ils sont pas trop mauvais. Ça s'arrache pas. Ça ne bouge pas les aérographes. Bon.
Ça, y en a. À part la Citadel et la Army Painter, il n'y en a pas beaucoup qui bougent.
Non, mais ça bouge quand même. Hein. Il faut quand même mettre du diluant, etc. Par contre, ça couvre. Elle est très couvrante. Et eux, ils disent qu'il y a une large gamme. Alors, effectivement, ils ont une gamme. Il y a. Je reprends ici.
Après, c'est ça.
476.
À la base, c'est quand même une gamme de modélistes.
C'est ça.
Enfin, de maquettistes presque.
Voilà, tout à fait. Alors, en fait. Ici, dans leur troisième génération, ils ont sorti plusieurs trucs. Donc, à chaque fois, il y a un label. Il y a les peintures fluo. Il y a les peintures intenses. Donc, les intenses sont très, très bien. C'est un bon compromis. Si vous ne trouvez pas de la Chimera, qui est une peinture ultra pigmentée, mais qui est du haut de gamme, si vous voulez investir, mais pas à fond, il y a de la intense. Là, j'en ai ramené un pot. Hein. Le rouge, c'est un rouge intense.
Attends, c'est celui-là.
Voilà. Ensuite, on a l'acrylique de base, hein, c'est le orange, le petit truc avec le symbole orange.
Qui est de base, mais qui est très bien.
Qui est très très bien. La bleu ciel, qui est du pastel. Le orange, c'est. Ouais, voilà, alors le fluo, ils appellent ça du
pastel. Bonjour, je suis un vert classique.
Les métalliques.
Il fait super bien le pot de peinture.
Ouais, j'ai très bien le pot de peinture.
Les métalliques, j'ai pas utilisé encore, donc je vais pas me prononcer. Ils ont une gamme auxiliaire aussi que j'utilise pas forcément parce qu'il n'y a pas
c'est
de
quoi,
besoin.
C'est, ça,
c'est l'auxiliaire, ouais.
Auxiliaire.
Alors,
c'est quoi, auxiliaire
je sais pas. Je pense qu'il doit avoir le médium.
Ouais, c'est les vernis, etc.
Vernis, etc. J'utilise du Vallejo parce que.
De Vallejo. Ouais.
Alors ensuite, on a l'intense. C'est... Non, alors là, voilà, l'intense. Donc c'est celle que j'utilise majoritairement pour faire des mélanges.
Qui est jaune dans le petit rond. Je précise pour ceux qui n'ont pas la vidéo.
L'intérêt du intense, quand vous faites un mélange, si vous voulez partir d'une base rouge ou verte, là on part d'un vert de base.
Moi je suis vraiment intense, je vis la vie à 3000%.
Voilà. Et donc après vous pouvez le désaturer, mais c'est du coup vous avez une peinture beaucoup plus riche. Les encres, je ne les ai pas utilisées. Me prononcer, bon, je suppose que ça va pas être de mauvaise facture. Alors, ça, c'est les peintures spécifiques aux véhicules militaires.
Ah bon?
Donc, il y a toute une gamme.
Ils sont blindés,
d'ailleurs, il y a un char sur le logo.
Surtout la gamme de couleurs, la palette.
D'accord, okay.
Le nuancier.
Le nuancier qui est très très large. Vous avez du Panzer Première Guerre mondiale.
Du Panzer usé, du Panzer.
De tout, du Panzer. Bah, parce que c'est fait pour les maquettes, donc il y a du. Sûr. Rouge de sortie d'usine, etc., etc. Ensuite, on a les figures, les rouges. Hop, voilà, les figures.
C'est dur à le voir.
Les figures, en fait, c'est la même chose, Deuxième Guerre mondiale, on va dire militaire, les peintures militaires, mais pour l'infanterie. D'accord. Donc c'est là qu'on va retrouver des peintures,
des uniformes, etc.
Uniformes, Vietnam, Deuxième Guerre mondiale. On a leur, voilà. Alors l'avantage majeur de AK, c'est pour moi le prix. Je les trouve pas cher du tout. Et surtout, ils proposent des sets de 4 peintures qui coûtent environ 15 euros. Tu peux montrer, je crois que c'est ouais, dans le magazine.
Tu n'avais pas dit 10 euros ?
Ça dépend
c'est
en fait.
Ça, ça dépend. C'est une dizaine d'euros. Alors ça, voilà. Donc, vous voyez, en dessous, il y a les petits.
C'est les 3G Special Set.
C'est les Special Set. Donc les Special Set, c'est des petits sets. Alors il y a pas. Parfois, c'est une modulation. On va avoir par exemple le Vietnam. Donc il y a 2, 3, 4 couleurs qui. Voilà.
Et après, je sais que j'ai acheté celui sur la peau, par exemple.
Ouais. Alors il est très très bien. Donc j'ai acheté aussi.
Mais il est pas là.
Non, parce que c'est la version fantasy en fait.
Ah d'accord, ok.
C'est en fait ils ont une gamme militaria maquette qui est.
Bon
énorme.
Alors désolé pour la vidéo, ça fait très artisanal.
Très cheap. Très cheap. Promis, on investit dans une deuxième webcam pour le prochain podcast.
Alors vous voyez bien, hein, on a fait un zoom. Hein,
alors c'est moi, super, papy. Pour info, j'ai acheté à peu près les 3 sets. Enfin ouais, il y en a plus que ça, mais les 7 Deuxième Guerre mondiale pour peindre mes Allemands bolt action. Il y a le Felgro basique qui permet une modulation. À chaque fois, il y a 3 couleurs, hein, la base, l'assombrissement et l'éclaircissement. Et vous pouvez les mélanger. Alors, l'avantage des AK, elles sont très miscibles avec toutes les autres peintures. Elles ne vont pas mal se mélanger avec de la Gaines. Ou... Ça, c'est très bien. quoi dire encore moi, ce que je trouve vraiment très intéressant sur l'AK et ce que je n'ai pas sur d'autres, c'est que je le mets sur la palette humide. Et les tout de suite, je l'utilise. Il n'y a pas de.
Ready to paint.
Il ne faut pas mettre de l'eau. Et si je mets de l'eau, si je la dilue, je vais faire des fondus de fou. C'est-à-dire que ça me permet de faire des fondus.
Et très bien pigmentée, du coup.
Très pigmentée. Elle reste très pigmentée. Et elle accroche bien.
Et au niveau de la finition, tu es plutôt sur une peinture qui est très mate comme la scale ou assez satinée, alors, quand même légèrement satinée.
Non, elle n'est pas du tout satinée. On est vraiment proche de la scale en fini. De souvenir, j'ai peint.
Ce que j'ai vu, ouais, elle est très voilà. Mate. Hein.
J'ai montré, Antoine est passé tout à l'heure à la maison, j'ai montré 2-3 figurines. C'est très très mat pour faire les socles, etc. C'est pas mal pour le rendu terre.
Pour la peau, c'est cool aussi.
Et pour la peau, on fait.
Moi, je l'utilise pour ça principalement et c'est vrai que c'est très mat.
Moi, j'ai commencé par acheter un set AK intense en voulant tester. Puis, c'est quand même pas mal. J'ai acheté après le set peau et le set. Un autre set, enfin je sais plus lequel, bref. Après je me suis dit, bah, les fluos, elles vont être pas mal du coup. Donc les fluos, bon c'est ma réserve, hein. Les fluos elles sont sympas, mais comparé à... j'ai acheté parce que le set présentait tout plein de fluos, donc ça passait pas mal. Mais le fluo bleu est pas top du tout. D'accord. Il est pas assez pigmenté à mon goût.
Ouais. Bah, c'est dur le bleu.
De toute façon, concrètement, il y a... Non mais enfin les fluos c'est très compliqué, dans toutes les gammes. Ouais. Soit elles sont pas assez pigmentées, donc elles sont assez transparentes.
Ah, ouais,
il faut passer plusieurs couches, ou alors elles sont...
être un vrai blanc tout pétant
là,
en dessous pour réussir à avoir un truc.
Ça marche quand même.
Ouais.
Ça marche quand même pour les couleurs autres que bleu. Le bleu, il y a un peu plus de mal. Après, j'ai pris les couleurs pastels. Alors les pastels, c'est très bien pour finir des éclaircies, etc. Pour aller vers le blanc, donc ça, c'est vraiment bien. Et ce que j'aime beaucoup, j'ai acheté le NMM Gold. Voilà.
Okay.
C'est qu'à chaque set... À chaque set, vous avez un petit tuto.
Un petit tuto.
Et ça, voilà, pour
c'est
une vingtaine
cool.
d'euros. Les gros sets, c'est une vingtaine d'euros.
C'est vrai qu'ils sont intéressants. Moi, je dis, j'ai pris 2 sets comme ça. 3 sets, en fait. Vietnam, US, Seconde Guerre, et puis de la peau. Et c'est vrai qu'ils sont cool.
Alors, moi, je conseille tout le monde d'aller commander. Alors, si vous pouvez, si vous avez un vendeur près de chez vous, voilà.
Pour les nordistes, hein, c'est Domino, au Mont Noir,
le site de AK, si vous êtes franco de port, il y a un système de.
Pour les gars de Grenoble, il y a Wargame Spirit qui en vend aussi. On les a vus ce week-end, par exemple. Et ils le font à distance aussi. Hein.
Mais
Domino aussi, hein, n'hésitez pas.
Voilà, c'est ça.
Ok, bah merci beaucoup pour cette vue sur la peinture d'Im. Merci beaucoup. On va passer maintenant du coup au SAV de la forge. Sly, t'es chaud là, c'est bon ?
Alors par contre, juste, c'est la deuxième de Sly. En fait, pour la troisième, il faut un jingle.
C'est vrai, il faudrait que tu trouves un jingle.
Il faut que j'en trouve un.
Ouais, mais t'en avais fait un, il me semblait. Tu faisais à la bouche. La dimension.
La dimension.
Là, tu l'as pas fait.
Si, t'en avais un.
Ouais, il y avait un musique.
Non, mais je vais produire quelque chose. Alors, s'il y en a des qui nous écoutent, des gens, vous pouvez envoyer un truc.
Des trucs libres de droit, n'hésitez pas.
Un truc sympa.
Alors, cela était prêt pour la forge ? Oula.
Ouais.
T'as l'air d'avoir pris cher là, t'es malade ?
Ouais, non, j'ai du mal à me remettre du week-end dernier. Je suis allé à Ludinor avec mon fils de 9 ans. Bon, c'était cool, mais j'ai jamais perdu autant de jeux en si peu de temps. Alors du coup, j'ai un peu mal au cul et la gueule de bois. Je me pose beaucoup de questions sur mon avenir dans le jeu de plateau. Un peu comme ces joueurs de foot pro qui perdent contre des amateurs de 5ème division. Non mais c'est de ma faute aussi, je joue avec lui depuis qu'il est tout petit, alors forcément il appréhende plutôt vite les mécanismes des jeux. Surtout depuis qu'il a arrêté d'essayer de mâchouiller les tuiles en carton. Et en plus il a du bol comme pas permis. Je vais finir par me demander s'il est bien de moi d'ailleurs. Le plus rigolo dans tout ça, c'est quand même la tête des adultes qui jouaient contre lui quand la partie se termine. Comme c'est un enfant, ils osent rien dire, mais il y en a, tu sens qu'ils sont pas super heureux, quoi. Tu te dis que si c'était moi, je prendrais une tarte limite, tu vois. C'est pour ça, faut jouer qu'avec tes enfants. Tu peux leur mettre des claques quand tu perds. Alors que quand c'est les enfants des autres...
Oula, oula. On va attaquer les questions, hein, avant que ça dévie un peu trop. Première question aujourd'hui, de Richard. Alors, je suis un joueur depuis très longtemps, et j'ai toujours trouvé agréable de pouvoir partager ça avec tout le monde. Avec l'arrivée d'Internet et la mondialisation, il arrive souvent que les jeux qui m'intéressent ne soient pas traduits. Je suis vraiment obligé de devenir bilingue pour continuer à profiter de mon hobby ?
Alors, bilingue, non, pas forcément. Néanmoins, il devient de plus en plus difficile d'éviter l'anglais ou les anglicismes dans les jeux récents. Oui, car je vais centrer ma réponse sur l'anglais. C'est quand même le cas le plus courant. Et puis franchement, si vous jouez à un jeu écrit en ouzbek, c'est que vous cherchez un peu les problèmes quand même. Ou que l'auteur du jeu cherche à obtenir une récompense du meilleur jeu en langue que personne ne parle dans un festival du jeu. Donc pour moi, il faut distinguer deux cas de figure. Le premier, c'est le fait de devoir communiquer en anglais. Ce qui implique que vous jouez avec des personnes qui ne parlent pas votre langue. Et là encore, vous l'avez un peu cherché. Bon, j'ai arrêté d'utiliser cette expression, on dirait mon oncle alcoolique en fin de soirée quand on parle du sexe non consenti. Je m'égare, pardon. Donc, si vous jouez avec des personnes non francophones, ce n'est jamais un hasard. Donc c'est que vous vous êtes mis volontairement dans cette situation. Si vous allez à un tournoi en Belgique flamande ou dans un tournoi frontalier de l'Allemagne, il faut bien sûr vous attendre à tomber sur des gens qui parlent une autre langue. Et comme notre hobby est quand même social, malgré le fait qu'on nous traite souvent d'asociaux, il faudra bien trouver un moyen d'échanger et de faire avancer le schmilblick, comme disait l'autre. Donc soit vous assumez votre French accent, soit vous vous y mettez, Richard. Le deuxième cas de figure, c'est celui du jeu qui est diffusé en anglais. Dans ce cas-là, il faut compter sur votre ami internet et le fait que de nombreux grognards de la langue française se démènent pour vous offrir des versions fan-made. La qualité sera variable, certes, mais c'est souvent le gage de personnes engagées pour défendre et diffuser leur jeu. La vraie problématique derrière tout ça reste économique, car traduire et produire un jeu dans des langues différentes, ça reste un pari financier. D'où l'émergence de jeux dans lesquels le texte n'est pas prépondérant pour pouvoir diffuser au plus grand nombre avec juste un livret de règles disponible dans plusieurs langues. Pour les jeux experts à texte, alors là, j'ai pas vraiment de solution. À part se retrouver à réimprimer à ses frais le matos de jeu en français alors qu'on l'a déjà payé en anglais. Ça me rappelle la fête d'école où tu dois payer pour manger une part du gâteau que t'as toi-même cuisiné la veille à 22h parce que t'avais oublié cette putain de fête. Mais bon, dans tout ça, c'est sûr que tout doucement, il faut se faire une raison et accepter que l'anglais s'impose quand même de plus en plus. On râle, mais bon, demandez aux néophytes qui traînent dans vos familles et dans les conventions s'ils comprennent toutes les conversations des joueurs, et vous verrez qu'au final, on part tous une langue étrangère, le figuriniste avancé ou le platiste confirmé. Alors, je lance 5 dés sur ta CC, ça passe sur du 6+, tu perds ta save, sauf si tu as bien vu un sac, et après tu fais un CD à 8 et tu es pinned. Genre de phrase là, quoi.
Ouais, le langage universel de l'amour du plastique et du carton. Tiens, une question de Nico, en rapport avec ce langage trop hermétique. Des règles de jeu trop complexes nuisent-elles à l'immersion ?
Oui.
C'est tout ?
Oui.
Bon, ok.
Ok, comme vous insistez. Bon, mettons-nous en situation. On a tous connu une partie de jeu de plateau, de rôle ou de figurine qui se passe super bien. Tout le monde est dans l'ambiance. Ça rigole, ça râle, ça mange trop de sucre, ça s'insulte en allemand, ça lance des dés. Et là, bim, un point de règle qui tombe. Genre, est-ce que mon barde peut utiliser sa mandoline comme un arc ? Ou puis-je me lécher les seins pour distraire le gobelin ? Ou combien d'attaques de tir peut faire ce régiment de lanciers ? Et là, pour des raisons qui nous échappent, un crétin sort le bouquin de règles et passe 10 minutes à chercher la bonne page pour la lire en marmonnant et la passer à son voisin, qui lui-même va la lire en marmonnant pour au final lancer un dé pour résoudre le truc. Sauf que bah, ça a tué l'ambiance et la partie reprend, mais ça a perdu de sa saveur. Le problème des règles complexes, c'est que ça couvre tellement de cas de figure qu'il faut toujours se référer à un livre, un tableau, une feuille. Et après, c'est difficile de se remettre dedans. C'est comme tenter une position trop technique dans un moment intime. Si tu dois tout stopper pour aller relire le manuel, bah c'est pas la même ambiance quand tu reviens. Et encore, des fois, tu comprends mieux le dessin du Kama Sutra que certains schémas de livres de règles. Hein. Les puristes, des jeux, hein, pas du sexe, vous diront que pour obtenir une vraie reconstitution des faits et un résultat plausible historiquement, il faut prendre en compte le plus de facteurs possible. Alors oui, certes. Mais il faut que tout le monde autour de la table soit dans le même délire, parce que sinon la soirée va être compliquée. Je veux dire, si t'es intolérant au lactose et que tu sais pas que c'est une soirée raclette, ça va te faire un peu drôle quand même. En conclusion, je dirais que c'est pas forcément la complexité de la règle qui joue, mais la connaissance qu'en ont les joueurs. Si tout le monde maîtrise les règles, pas besoin de sortir de l'ambiance.
Ouais, c'est sûr qu'il vaut mieux être sur la même longueur d'onde pour que ça marche. C'est ce que j'arrête pas de dire à mon voisin vegan qui râle que la fumée de mon barbecue le jette. Prochaine question de Michel. Sachant que je suis végétarien, c'est assez drôle de me dire ça. Bref, prochaine question de Michel. Oui, je voulais juste... Attends, excusez-moi, j'arrive.
On revient du no skill.
Alors, pour information...
En fait, c'est ton voisin qui fait un barbecue.
C'est mon voisin qui fait un barbecue. Et je constate que ça sent trop bon, en fait.
Non, ton voisin, c'est un voisin qui est viandard. Et toi, t'es vegan et tu fais cuire du tofu.
Bref, prochaine question de Michel. Excusez-moi pour cet égarement. Oui, je voulais juste râler contre tous ces jeux qu'il faut absolument installer. Non, pardon. Où il faut absolument installer l'appli qui va bien pour jouer, parce que sinon le jeu prend des plombes. Et bon, moi, avec mon Nokia 3310, je peux pas vraiment suivre. Alors, ma question, c'est l'innovation technologique est-elle vraiment une bonne chose pour le monde du plateau et de la figurine?
Ah, mon bon Michel, je reconnais bien là une question de vétéran de la figue, de ceux qui possèdent des kilos de livres de règles inutiles chez eux parce que bon, on sait jamais. Remarque, ils n'ont pas forcément tort, je suis sûr que ces gars-là, ils n'ont jamais eu peur de la pénurie de PQ pendant le confinement. Faut bien reconnaître qu'en plus de nous vendre du plastique, de la résine pourrie et du carton, les éditeurs de jeux nous vendent aussi du papier. Beaucoup de papier. Soyons-nous honnêtes, qui n'a jamais hurlé de frustration en apprenant que le dernier codex ou livre d'armée qu'il venait d'acheter allait être obsolète avant même qu'il n'ait le temps de finir de le lire V10. Coucou les codex World Eater et Astra Militarum V9 pour 40k. Tous ces petits anges partis trop tôt dans la réserve. Et je ne vous parle pas non plus des livres identiques à quelques lignes près qu'on vous fait payer le prix fort. Coucou le Battle Tom des Caradrons. Oui, je tape sur Games, mais en réalité, ils ont tous le même problème. Ce problème, c'est de pouvoir suivre dans un milieu en évolution constante. Et dans un modèle globalisé comme le nôtre, c'est une merde sans nom. Imaginez, les gars créent des règles, les testent, les mettent en page, les impriment, les relient, les expédient et les vendent. Ça demande de la planification, de l'organisation, dans un monde qui bouge sans cesse. Résultat, ils doivent pondre des errata pour des bouquins tout juste sortis, parce que la communauté, maintenant, elle réagit fort. Elle réagit vite et de façon globale. Saleté d'Internet permettent aux gens d'échanger et de s'organiser. Pour faire l'analogie, ce serait comme organiser un mariage. Tu prépares pendant des mois. Tu dépenses une fortune, tu fais 1000 plans de table parce que ta famille n'est pas foutue de répondre dans les délais, coucou papa. Tu te payes des insomnies, et le jour J, quand t'es sûr que tout est le plus parfait possible, paf, en plein milieu de la cérémonie, tous tes invités se barrent parce que bon quand même, la lettre aux Corinthiens, il y en a marre, c'est pas original, ou que, soi-disant, ça ne se fait pas de mettre l'hymne de la Ligue des Champions pour rentrer à l'église. Résultat, tu restes comme un con avec tes 600 chouquettes, et les seuls à rester, c'est tes fanboys ultimes, genre ta grand-mère et la chorale de l'église, qui vient avec ses tupperwares parce que quand même, faut pas gâcher. Putain, on parlait de quoi déjà? Ah oui, alors la parade à cette obsolescence, ce serait le passage au numérique, soi-disant, avec des applis ou des sites qui seraient actualisés en temps réel ou presque. Sur le papier, ça paraît la bonne idée, sauf que ça demande plusieurs choses. Déjà, d'avoir le téléphone ou la tablette adéquate pour pouvoir accéder au contenu au moment où tu veux jouer. Il faut aussi anticiper le fait que tu n'auras peut-être pas de connexion ou plus de batterie. Et il y a un paramètre que personne ne prend en compte là-dedans, c'est la résistance des joueurs à la nouveauté. Honnêtement, combien d'entre eux nous font leur liste sur informatique mais l'impriment pour venir jouer? Ou impriment les livres de règles numériques parce que c'est plus facile à feuilleter? Ça va mieux pour les toilettes. La conclusion de tout ça, c'est qu'on se dirige quand même vers une généralisation du numérique, car c'est quand même plus économique pour les éditeurs, avec en plus un argument pseudo-écologique de dire moins de papier. Mais, rassurons-nous, ils continueront de nous faire payer des codex et des livres de règles, mais en version numérique. Et nous, on continuera à se filer des copies pirates ou à jouer à des jeux gratuits. Puis bon, les réseaux sociaux, ça a quand même du bon pour l'échange, l'émulation, la constructivité. Bon, si tu fais abstraction des gens qui laissent leur cerveau sur off quand ils écrivent sur le net. Faut savoir vivre avec son temps. D'ailleurs, je me rends compte que je suis pas du tout à la page parce que je suis en plein de conflits de génération à la maison. Pas que mes enfants, non, ils sont trop jeunes. Pour le moment, non. Avec ma grand-mère, ça l'embête de devoir dire à ses copines que j'ai pas de compte Instagram. 93 ans et elle tweet, elle like. Bientôt, il va lui falloir un community manager. On est loin des clichés sur les vieux qui râlent parce que les timbres rouges ont disparu.
Ah là là, j'adore les réfractaires avec technologie. Ça me rappelle ce gars qui avait essayé d'imprimer une vidéo YouTube. Nouvelle question d'un certain anonyme. Je me suis inscrit sur My Hobby App. Je sweep, mais je matche pas. C'est pire que Tinder.
Bon, par quoi je commence? Pour ceux qui ne connaissent pas, My Hobby App est une application lancée par le French War Game Studio avec comme objectif de rapprocher les gens qui aimeraient bien jouer à des jeux. Et Tinder, c'est une application avec comme objectif de rapprocher les gens qui aimeraient bien jouer à des jeux.
C'est pareil en fait.
Alors non, parce que le but de My Hobby App, ce sera à terme de faciliter les rencontres d'un soir ou plus régulières et l'organisation de tournois. Alors que Tinder, ce sera à terme de faciliter les rencontres d'un soir ou plus régulières et l'organisation de tournantes. Ah, tu l'as pas vu venir celle-là.
Non, je l'avais pas. Ok.
J'enchaîne. On n'est pas très loin de la vérité non plus. Je veux dire, si je veux me faire violenter en prenant du plaisir, je sais même plus sur laquelle je dois me connecter. Je prends tellement de cul en jouant que Tinder m'a bloqué en croyant que j'étais une travailleuse du sexe. Non, mais en réalité, c'est une bonne intention de vouloir se faire se rapprocher les gens, mais dans un monde qui évolue sans cesse, se concentrer sur certains jeux, c'est quand même se limiter. Pour le moment, My Hobby App est ciblé plutôt aux jeux Games Workshop. Je veux dire, le meilleur exemple, c'est que si t'as des critères précis, tu vas pas sur Tinder, tu vas sur une appli au nom improbable, genre bobo sexy, torse velu et petite tenue ou asiat pas plate. En plus, je suis sûr qu'il y a autant de risques de tomber sur un sadique dans chacune de ces applis. Je vois ça d'ici. Piégé par un faux compte sur une appli, il se rend à un rendez-vous en croyant faire une partie narrative full pain et se fait étriper par un vil optimisateur en figurine sans bras. Il faut dire la vérité aux gens. Méfiez-vous des rencontres sur Internet. Préférez les rencontres réelles, présentées par des amis d'amis. Ou venez dans des clubs. J'en connais un très bien avec des gens très corrects. Ils organisent des week-ends des fois. Ils font payer l'entrée au chapeau et tu peux participer à toutes les démonstrations. Ah sinon, il y a la Forge Ludique aussi. Ils font le Hammer Time. C'est pareil, tu payes au chapeau et tu peux participer aux démonstrations. Bon, je vous laisse. Ma femme me demande si on est obligé de garder 50 numéros de White Dwarf des années 90 dans les placards. Je vais essayer de la convaincre que c'est une alternative viable à la crypto-monnaie.
Merci beaucoup, Sly. Merci beaucoup à tous les lecteurs qui t'envoient ces questions également. Merci beaucoup pour le travail d'enquête. Est-ce que vous avez des réactions sur les différentes questions qui ont été posées?
Ils sont scotchés.
C'est vrai. Moi, c'était sur le truc en numérique, en fait. J'ai un peu le cul entre deux chaises. J'avoue que ça casse un petit peu certains trucs, mais en même temps, c'est vachement pratique. J'ai un exemple en tête. En fait, je joue beaucoup à Gloomhaven avec des copains, en version plateau, full plateau. Eux, c'est cool pour eux parce que c'est moi qui installe tout. Ouais, ils m'aident pour ranger quand même. Mais c'est moi qui installe tout. Donc en fait, avant qu'ils arrivent, pendant 3/4 d'heure, je prépare tout, je remplis la table de carton, etc. Et ils jouent. En fait, Greg, par exemple,
en fait,
lui.
C'est comme quand tu t'invites des gens. Souvent, tu cuisines avant.
C'est ça.
Et tu leur sers à manger. Sauf si tu fais le soir à la raclette.
C'est ça, ouais. En fait, Gloomhaven, c'est vraiment pas de la raclette. Voilà. Voilà.
Non,
et Greg, par contre, lui, il a joué en version uniquement en ligne. Donc, c'est plus du plateau, hein, c'est que du en ligne. Et en fait, bah, je peux comprendre. Tu vois, là-dessus, je peux comprendre parce que.
T'as une question de distance.
En fait. Ouais, t'as une question de distance, mais en termes de. Certains jeux, notamment des donjons crawlers, j'ai l'impression que c'est souvent comme ça où tu dois placer les salles et tout ça. Bah, il faut que tu prévois au moins une demi-heure à l'avance. Et ça, c'est difficile.
Moi, sur Star Wars Assault sur l'Empire, c'est la même chose.
Ouais.
Des fois, le setup est assez important. Puis quand tu joues avec les enfants, parce que moi, c'était avec les enfants, ils deviennent vite impatients. Donc, j'avais pris le pli de ranger les tuiles, en fait, par ordre. Les dizaines et les
faut gagner du temps à la mise en place.
Ouais, c'est ça, ouais.
Mais j'avoue,
ça reste quand même,
c'est quand même une mise en place qui est très longue. Si t'as fait tomber ta pièce par terre, que le chien est en train de la bouffer, bah, vous voyez où la 25C là, elle est où?
Ouais, c'est ça.
C'est un petit peu,
J'avais essayé aussi, je crois que c'est Horreur à Arkham qui a refait une nouvelle version où t'as du plateau et de la tablette. Et en fait. Les événements aléatoires ou du scénario sont gérés par la tablette en fait. Donc c'est un peu entre les deux, je pense qu'ils ont économisé un set de cartes en fait, grosso modo.
C'est parce qu'ils sont repris.
Ils ont pas beaucoup économisé s'ils ont développé une appli.
De l'appli, c'est peut-être tout simplement de dire tu peux balancer, tu peux errater tes cartes, tu peux peut-être balancer
tes nouvelles
cartes.
Tu la localises plus facilement.
Tu peux jouer en solo.
Et tu la localises
plus facilement. Aujourd'hui, dans les jeux de plateau, c'est devenu une.
C'est vrai.
Un truc hyper important, le jeu en solo.
Ouais, et puis c'est vrai qu'en solo, tu vas pas te casser la tête à installer 45 minutes de ton plateau pour jouer une heure.
Y en a qui le font, mais ils sont motivés. C'est le mec qui se fait racler tout.
Après, pour rebondir.
C'est fromage pour moi.
Sur le jeu de plateau et jeu de cartes, deck building. Moi, je fais pas mal de deck building, notamment Resources de Galaxy. En fait, l'avantage, c'est que là, tu peux pas te tromper dans les règles en fait. Quand tu joues à un jeu comme ça sur Apple.
Moi j'ai ça avec Blood Bowl, tu vois. J'ai jamais joué au jeu de plateau, par contre, j'ai déjà joué à la version numérique.
Le problème de la version numérique est pas forcément fidèle aux règles.
Non, mais c'est ça le seul truc. Après, il faut voir dans quelle mesure.
Est-ce qu'elle est marrante en numérique?
Moi, je fais, c'est pareil.
Est-ce que c'est sympa en numérique?
Sur Blood Bowl,
ouais, donc c'est pas fidèle aux règles.
Sur Blood Bowl, je le fais aussi parce que ça permet de faire plus de matchs en fait. Parce que Blood Bowl sur plateau.
En fait, c'est le temps de résolution.
Tu joues 3 heures avec un copain, c'est génial, j'adore et tout, t'as tes figurines et tout. Par contre, des fois, t'es le soir, t'as envie de jouer un peu, bah moi je lance Fumble, alors c'est dégueulasse niveau graphique, mais pour le coup c'est vraiment fidèle aux règles et le moteur 2D est aléatoire quasiment.
Ouais, parce que sur le jeu vidéo voilà. Il est
et en fait ça permet tu joues un match en 45 minutes et ouais, t'es chez toi à côté de ta femme en fait.
Après je pense que
et ça passe mieux.
Ça va, chérie, ouais, ça va.
Bah, du coup t'as pas de chat. Parce que tu sais où elle est ta femme. Est
côté, si ça arrive parce que j'ai passé l'ordi au micro-ondes avant.
Je pensais que t'allais me dire ta femme tout elle est explique. Avec un mec.
Non. Tu sais pas ce qu'il fait. Ça va chérie, ouais ça.
Tu sais, c'est en fait une pratique un petit peu comme les mecs, c'est du candolisme.
Je pense qu'on s'éloigne un petit peu du sujet du podcast.
My hobby app.
Est-ce que vous avez installé My Hobby App?
Pas du tout.
Non.
Moi, j'ai pas besoin, je joue ici.
Alors, moi, je l'ai installé. Hein, parce que, apparemment, pour aller au French War Game Day, il fallait que.
T'avais besoin de matcher.
Alors, je savais pas qu'il y avait ça. Je ne savais pas comment ça fonctionnait. Je suis.
C'est comme Tinder en fait.
J'ai aucune idée. En fait, non, moi je l'ai installé pour.
C'est de la part géolocalisation. Ah, d'accord. C'est impossible à dire cette heure-ci.
Alors moi j'ai juste. Comme Tinder, en fait, il fallait
ouvrir. À 200 mètres, à 10 mètres. Oula, ça c'est ma voisine.
En fait, non, là, j'en avais juste besoin pour m'inscrire au French War Game Day.
Ouais, c'était obligatoire.
Il fallait mettre la liste dedans. Mais non, j'ai pas utilisé. Donc je testerai, je vous dirai si j'ai des matchs sympas.
Comment ça se passe niveau RGPD?
Bah, si, il doit avoir une déclaration, sûrement.
Ouais, je sais pas, ils un peu la question quand ils ont lancé.
Bon, après, on va pas polémiquer.
Ça marche.
Si, après, je pense que pour eux, la question, ça va être de durer dans le temps, parce que là, il y a un effet nouveauté.
Ouais, tout à fait.
Voilà, ça va marcher.
Il y a une autre appli qui s'est lancée au même moment. J'ai plus le nom en tête, mais.
Et je pense qu'ils vont c'est la même chose. La sortie de la V10, le 44.
Il faut savoir que la guerre en Ukraine.
Du coup, ça va ramener de nouveaux joueurs, ça va relancer des trucs.
Une appli Tinder qui a été détournée. Enfin, une appli Uber Eats. C'est l'appli Uber Eats. En fait, c'est artillerie Uber Eats. En fait, les Ukrainiens.
Ouais, tu géolocalises et puis du
géolocalisent coup. Les Russes. Et ils envoient sur un programme type Uber Eats en disant oh, j'ai besoin d'un soutien à artillerie là à tel endroit. C'est géolocalisé. Et ça
c'est incroyable, c'est ouf.
Et t'as un connard qui arrive avec une pizza.
Et on pourrait l'adapter en plateau.
Bonjour monsieur les Russes. Bonjour monsieur les Russes. J'ai une pizza.
C'est ça, et en fait, j'ai regardé une vidéo stratégique.
Ok, d'accord, je connaissais pas du tout. Bon, on rigole, mais c'est pas très rigolo en fait.
Ah, mais c'est pour ça que t'as eu 500 vues sur Janus.
C'est ça, mais j'ai pensé là. Je me suis dit guerre.
En fait,
guerre.
T'as fait le lien.
Mais ouais, je me suis dit guerre, du coup, je regarde des vidéos de guerre. Du coup, il faut faire le truc, tu vois.
Je vais rebondir également sur un truc que t'as dit. Le Hammer Time, Greg devait passer aujourd'hui, mais il a une extension de voix et surtout une campagne à jouer. Du coup, en fait, c'est juste pour vous donner un petit peu les news. On sera du coup le Hammer Time. On se rejoint à l'homme, à la maison des enfants, les 23 et 24 septembre 2023. Le Hammer Time, donc, c'est une grosse convention, notre super convention à nous du jeu de figurines, la figurine dans tous les états, donc plateau, peinture, jeu de figurines, vraiment, dès que tu as de la figurine,
plein de démos,
c'est là, et beaucoup de démos, beaucoup de démos, et d'ailleurs en parlant de démos, en fait, le petit message que je passe pour Greg, c'est que les inscriptions en fait, pour les démonstrateurs, c'est ouvert. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller sur laforgeludique.fr dans la rubrique Hammer Time, il y a toutes les infos que vous voulez pour pouvoir vous inscrire. Et je pense que là, on est à 1h10 en fait d'enregistrement.
On était moins, on a fait plus longtemps.
Ouais, on a fait plus longtemps. On a beaucoup bavassé et j'avoue que j'ai un peu glissé aussi. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Toujours une belle ambiance autour de la table. À nos auditeurs, merci beaucoup à vous. Et puis, on se retrouve dans un mois dès qu'on a décidé d'une date.
C'est ça.
Allez, à ciao tout le monde.
Ciao.
Salut.